Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir d'accueillir M. Philippe Herlin qui vient de faire paraître chez Erol aux éditions d'Organisation un de ses nouveaux ouvrages « Finance, le nouveau paradigme » et avec un sous-titre « Comprendre la finance et l'économie avec Mandelbrot et Taleb », ce qui est en soi déjà tout un programme. Alors, monsieur donc Herlin, Philippe Herlin, bonjour.
Bonjour.
Très bien. Alors, vous êtes devenu un spécialiste de la finance et notamment du traitement du risque. Vous êtes chercheur en finance et chargé de cours au Conservatoire national des arts et métiers. Et vous publiez régulièrement des tribunes dans différents médias économiques. Et vous êtes l'auteur de la théorie des marchés financiers, revenir aux concepts fondamentaux, Club Finance HEC 2008. Vous avez fait des études aussi à HEC ou...
Non, alors j'ai fait un troisième cycle à Dauphine.
Ah d'accord.
Ouais, en finance,
d'accord.
Voilà. Mais je connais le Club Finance HEC, donc... qui est ouvert, qui n'est pas réservé aux anciens d'HEC. Donc.
Alors, changer de paradigme pour retrouver une croissance durable. La finance est devenue folle, dites-vous, on le clame partout, souvent avec raison, mais aussi avec fatalisme, que faire ? Alors, on ignore souvent que le mal a été diagnostiqué depuis longtemps, en premier lieu par des mathématiciens français Benoît Mandelbrot, l'inventeur des fractales, puis par d'autres esprits iconoclastes tels Nassim Taleb, le découvreur des signes noirs. Donc on est au cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est que nous n'avons pas la société, on va dire les spécialistes en finance, n'ont pas su mesurer le risque. Pourquoi ?
Alors, en fait, dans ce livre, j'essaie d'expliquer un peu les fondamentaux de la crise. Parce qu'on parle toujours de croissance, de ralentissement, tout ça, mais on reste un peu à la surface des choses. Et là, je reprends un certain nombre de théories qui expliquent que la théorie de la finance, c'est-à-dire les outils utilisés par les financiers, par les traders, par les directeurs financiers de sociétés, sont erronés. Et ça, c'est vraiment une analyse fondamentale qui permet vraiment de comprendre ce qui se passe et pas dresser à la surface des choses. Ouais.
Alors, l'erreur fondamentale, puisqu'on parle de fondamentale, c'est, vous dites, les lunettes gaussiennes.
Voilà. Hein. Alors, pour expliquer, bon, c'est expliquer
ça,
c'est,
oui, de façon simplement, voilà, accessible
pour
moi,
c'est ce que je fais dans le livre. Hein, le livre, il y a très peu de décoration mathématique. Vous,
bien sûr,
voyez,
monsieur, très peu. J'en témoigne.
C'est fait pour être lu par tout le monde qui s'intéresse au sujet, mais il n'y a pas de prérequis mathématiques à avoir, je rassure les gens. Je donne des exemples pour que tout le monde comprenne. Je prends l'exemple du Monopoly qui permet de comprendre les deux formes
tout
du
à
hasard.
Fait. Bon, c'est un excellent exemple. Voilà. Bah, vous pouvez peut-être alors, nous dire ce, alors, vous nous direz tout à l'heure ce que c'est que cet exemple du Monopoly pour bien comprendre les deux types de risques.
Voilà, mais pour parler des lunettes gaussiennes dont vous parlez, il faut comprendre que tous les outils de la finance, les modèles de la finance, qui tournent dans les salles de marché ou qui servent de référence pour les directeurs financiers, est né à la fin des années 60 à Chicago, avec un certain nombre de chercheurs américains, Markowitz, Sharpe, qui ont inventé la théorie du portefeuille, Black, Scholl, qui ont inventé la théorie pour les calculs des options, il y a Fama, avec la théorie de l'efficience des marchés. Bon, toute cette théorie-là est née des années 60 aux États-Unis, et l'outil qui a été utilisé pour appréhender le hasard, c'est la courbe de Gauss. Pourquoi ? Parce que c'était l'outil le plus communément utilisé, c'était le plus simple à utiliser. Bon, et puis on pensait que ça marchait. Mais il faut savoir que la courbe de Gauss, pour en parler très rapidement et de façon très simple, c'est que c'est à la forme d'une cloche. Bon, ça veut dire que la plupart des valeurs sont autour de la moyenne, qui est l'axe central, et les valeurs extrêmes sont dans la partie évasée en bas, mais qui est très fine, comme on peut le voir, s'imaginer. Ce qui veut dire que le hasard, la courbe de Gauss, mesure des hasards. Mandelbrot appelle ça un hasard sage.
Oui, c'est-à-dire qu'il reste dans des voilà. limites de X, pour, voilà. X fois l'écart type.
Voilà, c'est ça, c'est l'écart type. Voilà. Et Mandelbrot, quand ces théories sont apparues, Mandelbrot travaillait aux États-Unis à l'époque, au centre IBM, s'est dit, mais au fait, est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que les actifs financiers, les variations des actifs financiers, les variations de prix, est-ce que ça correspond vraiment à la courbe de Gauss ? Alors, il a fait les calculs, ça peut sembler un peu trivial aujourd'hui, mais il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait quasiment pas d'ordinateur, c'était des trucs à carte perforée. Bon,
c'était un peu
et
dur.
Et puis, on manquait de données, donc lui, il a trouvé une série de prix sur le coton qui a monté à plus d'un siècle. Et puis, il a passé ça dans la moulinette et puis il s'est rendu compte que non, ça ne marchait pas. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de valeurs extrêmes que ce que suppose la courbe de Gauss. Et c'est là le problème. Les actifs financiers, le coton, comme a pris le premier exemple, mais c'est les actions, tout ça, ont des valeurs, quand on regarde leur cours sur la longue période, comportent beaucoup plus de valeurs extrêmes que ce que prévoit la théorie et ce que prévoit la courbe de Gauss. Et il faut utiliser d'autres outils statistiques, des lois de puissance ou des lois de Pareto, pour mieux appréhender ce hasard.
Alors, ce que vous dites, c'est qu'en fait, il ne faut pas confondre le risque et l'incertitude, et que la courbe de Gauss permet de mesurer le risque partiellement. Et par contre, l'incertitude, vous avez la modestie de reconnaître, malgré que tous les calculs, malgré les prix Nobel, etc., que l'incertitude, elle fait partie de la vie des hommes, et que cette incertitude-là, personne ne peut la mesurer totalement. Et que par contre, par une approche de risque différente, enfin, on va dire qui inclut plus la notion de valeur extrême, on peut à ce moment-là se rapprocher de la réalité. Mais de toute façon, on n'y arrive jamais. Quoi. C'est un peu ça.
C'est-à-dire, même si on prend d'autres outils proposés par Mandelbrot ou d'autres, bon, les lois de puissance, le problème des lois de puissance, c'est qu'on peut pas, il n'y a plus d'écart type, il n'y a plus de moyenne. Bon, donc, on ne peut plus l'utiliser dans la théorie classique formulée à l'époque de l'école de Chicago. Quoi. Ça remet même en cause la notion même de modèle et la notion même de prévision. C'est-à-dire qu'il faut, c'est vraiment un changement mental, et c'est pour ça que je parle de changement de paradigme. Il faut penser autrement le risque, il faut penser autrement l'activité économique, la notion de portefeuille, etc.
Alors donc, ce que vous dites dans votre ouvrage, c'est que c'est pour cette raison, c'est-à-dire par une faute,
une erreur, disons.
Une erreur d'appréciation.
Non admise.
Donc sur la loi normale, en quelque sorte.
C'est aussi l'autre nom de la courbe de Gauss, la loi
c'est,
normale.
C'est ça. Donc, qui a fait que, eh bien, on a hérité de cette crise, on va dire, parmi les plus sévères depuis les années 30. Alors, point 1. Point 2, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la planète finance dans son ensemble, tous ces, on va dire, chercheurs, ces traders, tous ceux qui manipulent les équations dans tous les sens, ont pris conscience de ça ou pas?
En fait, pas vraiment. Bon, c'est vrai que Mandelbrot n'est pas connu comme financier, donc il a mis beaucoup de temps à se faire admettre. Dans les années 60, il n'est pas du tout célèbre. C'est dans les années 70 qu'il est devenu célèbre avec la notion de fractal. Il est devenu mondialement célèbre. Bon, les fractales, c'est une figure géométrique qui reste identique quand on change d'échelle. C'est-à-dire qu'on a une image engrossie d'un détail de cette image, et puis on a encore la même image. Bon, il prend l'exemple de la côte de la Bretagne, qui est découpée d'une certaine façon, mais si on zoome, on a le même type de découpage, et si on zoome encore, on a encore le même type de découpage. Et c'est aussi vrai pour les cours de bourse. Le cours de bourse, si on le prend sur un an, sur un mois, sur une semaine, c'est à peu près la même forme. Et si on présente une forme sans dire si c'est le mois ou l'année, la personne ne peut pas reconnaître a priori si c'est une courbe sur un an ou sur un mois ou sur une semaine.
D'accord. Donc, voilà. Okay. Alors, donc, pour l'instant, vous dites que malgré cette prise de conscience que, en fait, les modèles n'ont pas marché, quoi, pour faire simple, il ne semble pas qu'encore le monde financier se soit attaché, de façon en tout cas générale, à changer les modèles.
Non, parce que, bon, évidemment, les financiers se sont rendus compte que la courbe de Gauss ne marchait pas très bien. Bon. Enfin, c'est plus subtil que ça. Qu'en fait, la courbe de Gauss, ça marche quand il n'y a pas de crise.
C'est ça.
Quand le marché est calme, ça marche. Le problème, c'est que quand il y a un événement imprévu comme la crise de 2008, mais aussi la bulle Internet en 2000, la crise asiatique en 1998, enfin, quand il y a des événements qui sortent vraiment de l'ordinaire, là, tous les modèles sont dans le noir.
Ce sont donc ces fameux signes noirs.
Voilà, des événements imprévus. Nassim Taleb, dans un livre célèbre, Le Signe Noir, qui est un des essais les plus vendus dans le monde, 2,5 millions d'exemplaires, il faut le signaler, reprend les analyses de Mandelbrot et parle de ces événements qui sont impossibles à prévoir si on raisonne en termes de courbe de Gauss, mais qui se produisent quand même plus souvent qu'on ne le croit et qui chamboulent tout au niveau économique et financier.
Alors, votre ouvrage est très didactique, il est très pédagogique, et vous prenez, pour exemple, le Monopoly pour faire comprendre, par une relecture originale, quels sont les deux types de risques, qui donc, c'est une très bonne illustration, vous pouvez peut-être nous la donner en quelques mots, parce que tout le monde a joué au Monopoly, et donc nos auditeurs pourront, mieux qu'à travers une équation, comprendre quelles sont ces natures de risques complètement différentes.
Très rapidement, une partie de Monopoly, ça se découpe en deux séquences. La première partie, les joueurs achètent les terrains et la deuxième partie, on construit des maisons, des hôtels. Ce qui est plus la même chose. Alors, dans la première partie, on ne peut pas faire faillite, on ne peut pas perdre, on peut pas. Bon, il y a un risque qui est très faible en fait. Et là, on est dans un risque gaussien, c'est-à-dire il y a 22 terrains achetés. S'il y a 4 joueurs, chacun aura en moyenne 22 divisé par 4 terrains. Bon, plus ou moins les écarts. Mais là, c'est gaussien justement. Si on prend les différents.
Le risque, c'est d'avoir moins 1 par rapport à celui qui aura plus 1.
Voilà, moins 1, moins 2 par rapport. Voilà, mais ça reste. Il est extrêmement peu probable qu'un joueur sur les 4 récupère les 2/3 des terrains. Donc là, on est vraiment dans un cas de Gaussien. Il n'y a pas de valeur extrême de ce style-là.
On est dans la loi normale.
Voilà, donc c'est des choses assez calmes. On ne peut pas faire faillite. Enfin, on ne peut pas gagner ou perdre sur un coup de dé. Voilà, quoi. Et quand on regarde les différences de patrimoine, une fois que tous les terrains sont vendus, quand on regarde les différences de patrimoine, elles ne sont pas très élevées. Bon, il y en a un qui est un peu en avance, l'autre qui est un peu en retard, mais voilà. Ça, c'est le hasard gaussien. La progression des prix, enfin, entre Belleville, qui est la moins chère, et Rue de la Paix, qui est la plus chère, c'est une progression arithmétique. Qui est, la deuxième partie, On construit des maisons, des hôtels. Et quand vous regardez une carte de Monopoly avec le prix pour une maison, deux maisons, trois, quatre maisons et un hôtel, il y a une progression qui est exponentielle, quoi. Si vous mettez ça sur un graphique, là, ça correspond à une loi de puissance.
D'accord. Ce qui n'est plus la loi normale.
Alors là, ce n'est pas qu'un hasard extrême. Ce qui veut dire que celui qui a un petit avantage au début, il gagne beaucoup plus que les autres. Le premier qui arrive à mettre des hôtels sur ses terrains, il prend un avantage déterminant par rapport aux autres. S'il y a deux joueurs qui ont à peu près le même niveau en termes de terrain et qui mettent tous les deux des hôtels, le premier qui tombe chez l'autre, il a perdu en fait parce qu'il est obligé de vendre ses hôtels pour payer.
Donc le hasard devient...
Et là, on peut perdre ou gagner sur un coup de dé.
C'est ça.
Et les écarts de fortune s'accroissent considérablement. Et d'ailleurs, le but du jeu, c'est qu'à la fin, il y en ait un et les autres fassent faillite.
Donc le risque, voilà, là, est devenu extrême.
Voilà, le risque est devenu extrême. Et le risque sur un marché financier, il correspond à la deuxième partie du Monopoly.
C'est ce fameux risque...
Et pas du tout à la première. Voilà.
Tout à fait. C'est ce fameux risque que décrivait Daniel Zaddenweber dans son
ouvrage,
qui a d'ailleurs été pris Turgot, qui s'appelait L'économie des extrêmes.
Alors, que je cite dans le livre, qui est très
intéressant. Ce qui est très intéressant dans votre ouvrage, c'est qu'effectivement, vous avez un sens inné de la pédagogie et que vous rendez des choses qui ne sont pas toujours faciles à comprendre, accessibles au plus grand nombre. Et c'est ça votre performance que je salue. Alors maintenant, si on regarde l'avenir, qu'est-ce que vous dites sur quelques recommandations que vous pourriez faire sur est-ce que le capitalisme est mort, par exemple ?
Oui, ça, c'est le titre que je donne à la fin. Juste avant, je voudrais juste préciser que la théorie de la finance ne s'est pas limitée qu'à la finance, elle a aussi. Et c'est aussi
débordé
dans le domaine de l'entreprise. Et la gestion financière de l'entreprise a aussi beaucoup changé à partir des années 70. Et on parle beaucoup du coût des capitaux propres comme indicateur de référence. Et j'explique que ça provient de la théorie du portefeuille de Markowitz, cher Markowitz. Et ça introduit un biais dans la gestion financière de l'entreprise. Donc ça a aussi, je dirais, pollué la gestion financière de l'entreprise et ça amène les dirigeants à prendre de mauvaises décisions.
Donc les mauvais modèles ont pas simplement pollué, on va dire, la finance au sens général du terme, mais aussi les entreprises et les directeurs financiers qui travaillent en entreprise. Donc le risque est double.
Voilà. Et pour reprendre donc, le capitalisme est-il mort, ça c'est un peu l'épilogue que je mets dans le livre de façon un peu humoristique. Bon, moi, je suis quelqu'un de libéral, je crois à la liberté et au capitalisme. Mais là, je mets ça parce que je suis part d'un événement qui est très intéressant. C'est que la compagnie Ryanair a décidé d'annuler un contrat d'achat de plusieurs dizaines de Boeing et d'Airbus, un contrat extrêmement important, plusieurs milliards d'euros, et de rendre l'argent aux actionnaires sous forme de dividendes ou de rachat d'actions, ce qui revient au même. Et là, c'est la fin du capitalisme parce que le capitalisme, c'est justement, c'est apporter l'épargne aux entreprises pour qu'elles créent de la valeur. Et là, c'est l'entreprise qui dit « Ah ben non, moi j'arrête, j'ai pas de projet assez rentable, donc je vous rends l'argent. » Donc c'est le capitaliste qui se met à marcher à l'envers. Et l'entreprise prend cette décision justement parce qu'elle se base par rapport à la rentabilité des capitaux propres, basée sur le modèle de portefeuille de chez Markowitz. Et ce modèle-là, étant donné qu'il néglige le risque, il a tendance à trop exiger des entreprises. Parce que si on considère que l'entreprise rencontre assez peu des risques extrêmes, on peut être plus exigeant pour elle en termes de rentabilité. Alors que si on se rend compte que l'entreprise aussi, il n'y a pas que les financiers sur les marchés, l'entreprise aussi est confrontée à des risques extrêmes, à ce moment-là, on demande moins, on charge moins la mule, enfin on lui demande moins de rentabilité sur capitaux propres. Voilà. Et cette erreur-là amène Ryanair à rendre l'argent, alors qu'en fait, en période de crise, il ferait mieux de garder un peu de réserve, plutôt que de rendre l'argent. Voilà.
C'est donc un des risques supplémentaires, mais je crois que c'était donc Philippe Erlin qui a fait un diagnostic sans concession, avec beaucoup de pédagogie, sur les raisons d'une crise vue du côté, on va dire, du risque et de l'incertitude, mais par contre, qui ne désespère pas du capitalisme. Et en grand libéral, je voudrais vous lire donc un extrait de cet ouvrage qui donne ce double ton. Dans tous les cas de figure, profit ou dommage, les valeurs extrêmes ne sont pas étrangères au fonctionnement économique normal. Certes, sans elles, il n'y aurait plus de grandes catastrophes, mais sans elles, il n'y aurait plus non plus de producteurs de films ou d'artistes, plus de laboratoires prenant le risque d'investir dans la mise au point de traitements contre les grandes maladies chroniques contemporaines, plus de start-up, plus d'innovateurs investissant dans les nouvelles technologies. Resterait-il encore une croissance ? Point d'interrogation. Notre monde est plus incertain que nous avons tendance à le penser, mais il faut considérer cela comme une chance extraordinaire. C'est très bien écrit. Bravo. Et donc, j'invite nos auditeurs à se procurer cet ouvrage qui est donc très riche en développement. « Changer de paradigme pour retrouver une croissance durable » par M. Philippe Erlin aux éditions Erol. 205 pages, 22 euros. Philippe Erlin, merci. Au plaisir de vous retrouver. Je signale simplement que vous avez aussi fait paraître récemment un nouveau livre chez Erol. « France, la faillite ?» Point d'interrogation quand même. « Les scénarios de la crise de la dette, des conseils pour protéger votre patrimoine. » Les deux ouvrages étant donc aux éditions Erol.
On peut voir ça sur mon site philippeerlin.com.
Merci Philippe, à très bientôt.
Merci.
Au revoir.
Merci.